Famille, justice, enfance.
Bonjour, aujourd'hui avec David Vincent, une émission juridique, juridico-technique, dira-t-on, avec quelques actualités, quelques thèmes juridiques axés autour du juge d'affaires familiales, du juge des enfants, des placements et autres. David, bonjour, tu vas bien ?
Bonjour Stéphane, oui, je vais bien, je te remercie, bonjour tout le monde.
Dis-moi, au niveau actualité, on parle en ce moment beaucoup d'une loi là, qui vient de passer à l'initiation du Parti Socialiste à l'Assemblée, qui dit que chaque enfant placé, maintenant, se verra attribuer un avocat. On entend tout et n'importe quoi, il y a beaucoup d'enfants placés, il y a beaucoup d'avocats, qui c'est qui décide ? Enfin, qu'est-ce qui se passe exactement avec cette loi ?
Alors, il y a effectivement eu une proposition de loi qui a été déposée le 16 septembre, d'abord à l'Assemblée nationale, donc l'Assemblée nationale l'a examinée, l'a votée. Elle est donc partie au Sénat, où elle se trouve actuellement. Le texte a été adopté par le Sénat, donc normalement elle doit retourner devant l'Assemblée nationale pour être validée. Alors que nous dit ce texte, parce que c'est ça le plus important, moi j'entends beaucoup de choses effectivement là-dessus, à savoir est-ce que c'est pour les enfants placés, est-ce que c'est le juge qui va désigner l'avocat obligatoirement et automatiquement. En fait non, c'est beaucoup plus simple que ça. Ce qu'ils vont modifier, c'est l'article 375-1 du Code civil, qui va être ainsi modifié, je cite. Ils vont rajouter un alinéa, donc après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés, à savoir, en matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. Point. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat. Ce point est très important. Oui. Ensuite, oui. Le point suivant, c'est le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 388-2 du Code civil, évidemment. Et enfin, le quatrième alinéa est ainsi rédigé. L'assistance d'un avocat pour le mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative est, virgule, de droit, virgule, intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. C'est tout. C'est tout. La loi a un troisième article qui dit que la charge pour l'État sera compensée, évidemment, comme d'habitude, par ceux qui fument. Voilà. Donc, le tabac va augmenter pour ces raisons-là. Encore un prétexte d'augmenter le tabac. Bon.
Déjà ce que tu viens de dire là, la première conclusion qu'on peut en tirer, c'est que il y a plus de 380 000 jeunes qui sont potentiellement concernés, d'après les chiffres officiels. Nous, on pense que c'est plus parce qu'il n'y a pas d'informatisation, mais les enfants placés aujourd'hui, on est entre 300 et 500 000. Et quand tu demandes à Google, à ChatGPT, il t'en donne 380 000 jeunes concernés pour cette loi-là. Ça, c'est le premier point. Et en face, tu as 77 600 avocats. On peut déjà dire que les avocats, alors que nous on fait tout pour déjudiciariser, les avocats viennent d'avoir une sacrée nouvelle part de marché quand même là.
Alors, oui, si tu regardes les choses sous cet angle-là, ça veut dire que à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, chaque enfant aura un avocat lorsqu'il est embarqué dans une procédure d'assistance éducative. Alors, moi, les chiffres que j'ai qui sont de l'adresse, les derniers, d'ailleurs, les prochains vont sortir bientôt, puisque l'adresse nous sort ça aux alentours de Noël. L'année dernière, elle l'avait sorti dans cette période-là, aux alentours du 15 décembre. Donc là, aujourd'hui, je n'ai encore rien vu passer. Les derniers chiffres officiels que l'on a actuellement qui sont validés sont les chiffres au 31 décembre 2022. Où je sais, on est en 2025. De mémoire, je te fais les chiffres. On avait 400 000 enfants qui étaient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc, faut bien comprendre que ces chiffres-là, ce ne sont pas tous les enfants qui sont placés. Ce sont les enfants qui bénéficient d'une mesure, qu'elle soit administrative ou judiciaire. Et dans ces 400 000 enfants, c'était 396 000, je crois exactement, j'arrondis à 400 000. Dans ces 400 000 enfants, 75% d'entre eux l'étaient sous décision judiciaire. Donc, 300 000 enfants sont aujourd'hui, à la sortie de la loi, ces 300 000 enfants bénéficieront d'un avocat. Que ce soit pour une AEMO, que ce soit pour un placement, que ce soit même pour une mesure, toute mesure d'assistance éducative, donc c'est le placement ou l'AEMO, dans les deux cas de figure, il y aura donc un avocat pour l'enfant. Alors après, est-ce que ils vont dévier en disant bon bah chaque enfant aura un avocat ou est-ce que dans les fratries il y aura le même avocat pour la fratrie, c'est à voir comment ils vont s'organiser. Voilà. Alors, contrairement à ce que j'ai pu entendre, l'enfant peut choisir son propre avocat. Donc, en fait, ils n'ont absolument pas modifié les droits actuels de l'enfant, à savoir que il a le choix, il peut tout à fait lui désigner un avocat. Ses parents peuvent lui en désigner un aussi, ça faut le savoir. L'ASE déteste ça, mais ils peuvent pas s'y opposer. Alors évidemment que l'avocat de l'enfant désigné par le parent n'est pas payé par le parent, évidemment. Il doit être pris en charge par l'aide juridictionnelle. Les enfants y ont droit. C'est vraiment un droit, donc ils doivent faire la demande. C'est l'avocat qui le fait en général. Et donc, si effectivement on arrive au tribunal, à l'audience, et qu'il n'y a pas d'avocat, eh ben le juge va demander au bâtonnier qu'un avocat soit désigné à l'enfant. Donc, dès que la loi va entrer en vigueur, il va falloir que les parents comprennent que, dès le moment où ils ont une information préoccupante, il faut déjà qu'ils se mettent à rechercher un avocat. Alors, le problème, c'est que pendant la période, on va dire, d'évaluation de l'information préoccupante, c'est pas prévu que l'avocat prenne en charge l'enfant ou il soit pris en charge à l'aide juridictionnelle. Donc, ça va être un vrai foutoir. Ça, c'est à partir du moment où le juge communique qu'il a ouvert une instance, donc c'est le fameux document avis à famille que l'on reçoit à la maison, après normalement l'évaluation. Le greffier nous envoie un courrier nous disant qu'une instance est ouverte auprès du juge des enfants et que on sera convoqué plus tard pour une audience devant lui. Bon, et c'est à partir de ce moment-là qu'on est vraiment dans la dernière limite, il faut qu'on ait un avocat à ce moment-là. Parce que dès qu'on arrive à l'audience, d'ici un mois et demi, voire deux parfois, c'est plus rare, mais plutôt, ça prend plutôt un mois, de l'avis à famille au moment de la convocation, il peut se passer entre 5 et 10, voire 15 jours, rarement un mois, et la convocation, elle est généralement pour dans un mois, normalement, à peu près.
Okay.
Alors, je ne parle pas d'une ordonnance de placement provisoire, attention. Hein.
Oui. Alors, on ne va pas rentrer dans une bagarre de chiffres, mais moi je reprends le petit flyer qu'on avait fait pour les européennes. Les chiffres 2023 officiels, c'était 310 000 enfants placés, ça contenait pas pour 9,15 milliards d'euros, ça contenait pas les AEMO. On sait que l'année d'après, de 9,15 milliards, on est passé à 11 ou 13, je sais plus, enfin, c'est en augmentation. Là, en tout cas, tout d'un coup, moi je reviens sur ma vision financière, on a 77 598 avocats au 1er janvier 2025 qui viennent d'avoir entre 300 000 et 500 000 clients qui vont leur arriver en janvier-février. On peut aussi le voir comme ça. Donc on met en place une judiciarisation massive du traitement de l'enfance en France.
Alors oui, ceci étant dit, si tu veux, au pénal, lorsque les enfants sont traduits devant le tribunal pénal pour enfants, donc le TP ou le tribunal pénal pour enfants, là, dans le cadre, si tu veux, de la procédure pénale, c'est avocat obligatoire. Là où, par contre, en assistance éducative, pourquoi ils veulent mettre l'avocat obligatoire? En fait, c'est apparemment pour se mettre en conformité avec la Convention internationale des droits de l'enfant, parce qu'en fait, la voix de l'enfant en France, depuis le dossier Outreau, la voix de l'enfance en France, dans les tribunaux, elle n'est pas entendue, ou rarement entendue. Disons que, on le voit, moi je le vois dans tous les dossiers que j'ai, que j'accompagne, l'enfant, on s'en fout. Tu as des juges, ils considèrent, en assistance éducative, si l'enfant n'a pas 13 ans, il n'a pas droit à la parole. Alors qu'en fait, le 13 ans, c'est au pénal. Il est réputé discernant à l'âge de 13 ans au pénal.
Mais en assistance éducative, c'est tout le temps. Moi, j'ai des juges qui prennent des enfants de 9 à 10 ans et qui leur demandent s'ils ont envie de voir ou non leurs parents. Ce qui veut dire qu'à 9 ou 10 ans, ils sont décisionnaires. C'est eux qui passent devant les textes de loi. Donc, j'ai des cas que je connais très bien qui sont mis en place.
Il y a autant de pratiques qu'il y a de juges. Tu as des juges qui ne veulent pas entendre les enfants avant 13 ans. Tu as des juges qui ne veulent pas écouter les enfants. Tu as des juges qui ne font que d'écouter l'enfant, ou plutôt, très souvent, c'est un prétexte d'écouter l'enfant pour donner le gain de cause à qui on sait, c'est-à-dire les sociétés à l'enfance. D'accord ? Il y a autant de pratiques qu'il y a de juges. C'est pour ça qu'on ne peut pas tirer une constante. C'est ça le problème. C'est comme les pratiques de la société à l'enfance. Il y a autant de pratiques qu'il y a, pour commencer, de départements, et on pourrait même pousser le bouchon plus loin en disant qu'il y a autant de pratiques différentes qu'il y a d'équipes au sein des départements, puisque au sein d'un même département, il peut y avoir plusieurs groupes pour une question de territorialité. Et donc, les pratiques dans un même département entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, enfin les quatre points cardinaux, ne sera pas forcément les mêmes pratiques. Et on le voit parfois, en changeant d'une équipe à l'autre, on a des pratiques totalement différentes. Tu vois ? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas aujourd'hui, dans le cadre de l'assistance éducative, dire Ben, c'est comme ça, c'est pas autrement, parce qu'en fait, même si on a des textes de loi qui gouvernent un peu tout ça, l'application par les politiques en question sont des politiques départementales, et les pratiques, elles sont carrément territoriales. Et chez les juges, c'est pareil.
Enfin, bon, tu connais la position. Nous, on milite pour la création d'un nouveau métier, qui est quelque part le défenseur des droits de l'enfant, parce que dès qu'il y a un enfant qui est impliqué dans une affaire pénale ou éducative, comme tu le dis un peu trop souvent, c'est un sac de sport, on le sépare d'une mère qui allaite et autres, on ne s'occupe pas du tout de ses intérêts. Moi, je l'interprète de deux manières. Un, je vois un lobby des avocats qui vient d'avoir un chiffre d'affaires assez conséquent. Mais deux, je vois une avancée vers une spécialisation qui sera contrainte et forcée de l'avocat envers les problèmes éducatifs et de soutien à l'enfance, parce qu'ils ne pourront pas rester insensibles devant cette arrivée massive de dossiers. Et donc, j'espère qu'on aura des gens qui ne s'occuperont pas des enfants comme des palettes de raviolis, des conflits au tribunal de commerce, mais qu'on aura vraiment une professionnalisation du secteur de l'avocat et donc un pas vers ce métier hyper spécialisé qui manque dans la justice de l'enfance.
Oui, moi je vois autre chose qui m'inquiète. Quand je vois aujourd'hui dans les dossiers que j'accompagne les avocats qui ont été désignés par le bâtonnier et que ces avocats-là ne font jamais de conclusion, ne font jamais appel, en réalité, dans les dossiers que je vois, ils ne sont absolument pas là pour la protection de l'enfance et encore moins pour les intérêts de l'enfant. Les exemples sont simples. Je veux dire, quand un juge décide par une ordonnance de suspendre les droits de visite et même éventuellement de correspondance, mais en fait, le juge modifie les droits parentaux pendant le placement, sans audience, ce qui n'est pas prévu dans les textes. Les avocats en question ne s'émeuvent jamais de ces forfaitures, si tu veux.
Non, ils ne critiquent jamais contre l'institution, non. C'est vrai.
Donc, si tu veux, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est aujourd'hui, et je le dis sans viser personne, c'est un constat que je fais. C'est même pas moi qui avais fait ce constat, d'ailleurs. Je vais tout simplement citer le juge Huyette, qui est un magistrat très connu, qui a d'ailleurs publié son guide de la protection de l'enfance, dans lequel on peut lire, j'ai extrait la phrase, « Il est rare de trouver un professionnel capable de décrire en détail et sans erreur l'ensemble des règles procédurales et de fond applicable à la protection judiciaire de l'enfance, même chez ceux qui sont en fonction depuis de nombreuses années. »
C'est hallucinant, ça.
Personne ne maîtrise cette matière, d'accord ? Le rapport de l'ONU de 2023 le dénonce. Le rapport du Sénat de l'Assemblée nationale le dénonce. Personne ne maîtrise ces textes, d'accord ? Donc, si tu veux, là où je veux en venir, c'est que, puisque les juges, puisque les avocats, et encore moins les sociaux maîtrisent ces textes, moi, ce qui m'inquiète, c'est je veux bien qu'on colle des avocats aux enfants tout le temps, mais... Ben, il va falloir les former, en fait, ces avocats. Parce qu'aujourd'hui, je le vois, il n'y a pas un qui maîtrise cette matière. C'est extrêmement complexe, c'est une matière avec très peu d'articles, mais en fait, c'est une matière entonnoir dans laquelle on peut faire entrer toute situation d'un enfant, et en fonction de comment ça sort de l'entonnoir, allez hop, t'as gagné une AEMO ou un placement. Et quand on regarde en plus, moi en ce moment je suis en train de me faire un travail de reconstitution historique par de tous les travaux qui ont touché de prix ou de prix, non seulement à l'assistance éducative, mais je me rends compte que c'est en lien également avec les réformes du droit de la famille aussi, je me rends compte qu'en fait, l'esprit de la loi est totalement dévoyé. Mais totalement dévoyé. Aujourd'hui, au motif que le juge peut, par le 375 du Code civil, il peut prendre une mesure de 2 ans, il prend une mesure de 2 ans. Allez hop, une AEMO de 2 ans, un placement de 2 ans, il juge au fond. Il juge au fond, ok, parce qu'il a fait un débat contradictoire, il juge au fond, je te place ton gosse 2 ans. Ok, très bien, super. Mais en fait, tous les garde-fous ne sont pas respectés et l'esprit, les raisons pour lesquelles on effectuait un placement qui devrait normalement être exceptionnel, c'est une exception le placement, c'est quand on n'a plus du tout le choix, c'est un motif impératif pour la Cour européenne des droits de l'homme. Non, en France, on place parce que c'est la solution miracle et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec, j'ai les chiffres sous les yeux de l'adresse et dernier en vigueur, au 31 décembre 2023, 384 900 mineurs étaient donc bénéficiaires de mesures d'assistance éducative et parmi eux, on a combien on avait de placements? On avait, j'arrive pas à retrouver les chiffres, on était à quoi? 225 000 placements, je crois, 224 000, un truc comme ça. Mais il y avait dedans les pupilles de l'État, il y avait également les mineurs non accompagnés. Donc, quand on épure un peu les chiffres, on arrive, je crois, à 180 000 enfants qui sont dans la situation où on les a retirés de leurs parents pour, soi-disant, des faits de négligence ou de maltraitance qui n'ont jamais été avérés.
Oui, tu vois, on va élargir. On a plusieurs centaines de milliers parce qu'on n'arrive pas à voir les chiffres exacts parce que bien c'est sûr. Très mal informatisé. Voilà.
Donc on va faire ça. Ah, bien sûr. Alors, les chiffres de l'adresse, il faut comprendre une chose, c'est qu'en fait, c'est une déclaration des départements. Ce sont les départements qui déclarent les placements qu'ils ont. Déjà.
Nous, nos chiffres, ensuite, on les avait sur l'ONPE.
Oui, oui, tout à fait. Mais moi, je prends le chiffre de l'adresse directement parce que c'est l'adresse qui consolide tout ça. Ensuite, sur le budget de l'aide sociale à l'enfance, en 2023, les départements ont consacré 11 milliards d'euros à la protection de l'enfance. 11 milliards d'euros. Il faut bien comprendre. Les 11 milliards d'euros, on les obtient comment? Ben, les départements votent des budgets. Ensuite, ces budgets, ils sont connus. Donc, que fait l'adresse? Elle consolide ces budgets en disant, ben voilà, aujourd'hui, la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, c'est un budget de 11 milliards parce que le département X, il a tant de millions, parce que l'autre, il a tant de millions, parce que l'autre, il a mis tant de millions. Et donc, quand on consolide tout ça, c'est 11 milliards qui sont au total consolidés, dédiés à la protection de l'enfance. C'est pas un budget qui est décidé dans le cadre d'une loi de finances, c'est pas donc national, c'est pas un budget de l'État donc attribué à un ministère qui va redistribuer derrière. Non, c'est les départements ont une autonomie absolue, ils ont une indépendance garantie par la Constitution de leur administration, article 72 de mémoire, et donc ils votent les budgets qu'ils veulent.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir dans l'historique, c'est la fameuse commission Santiago qui avait repris, c'était en mars-avril dernier, je crois, qu'on avait tous lu, qui avait vraiment montré qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et c'est la première mesure qui est issue, en fait, de cette commission Santiago, qui est l'attribution d'un avocat à chaque enfant. Ça veut dire que les gens qui ont audité le système de la protection de l'enfance ces dernières années, leur première décision, leur premier réflexe, ça a été d'attribuer un défenseur à chaque enfant. Est-ce qu'on peut le voir comme ça?
Oui, on peut le voir comme ça, absolument. On peut le voir comme ça, absolument. Mais ça fait partie, si j'ai bon souvenir, ça faisait partie aussi, il faudrait que je vérifie, mais je crois me souvenir que l'ONU avait soulevé ce problème. À savoir que comme l'enfant... Parce que, si tu veux, le problème que je constate, en tout cas dans mes dossiers, c'est que si vous voulez, les juges, pour éviter d'avoir un avocat désigné par le parent ou choisi par l'enfant, désignent un administrateur ad hoc. Et ensuite, c'est l'administrateur ad hoc qui, lui, va prendre un avocat. Alors, pour lui, mais je vois pas pourquoi l'administrateur ad hoc aura besoin d'un avocat pour lui à l'audience. Tu vois? Donc, on marche sur la tête. On marche complètement sur la tête. Donc, si tu veux, je trouve que l'idée n'est pas forcément mauvaise. Mais de nouveau, si la protection de l'enfance fonctionnait, ce qui n'est pas le cas, ce serait une bonne chose. Là, aujourd'hui, on rajoute, si tu veux, un sparadrap sur une jambe de bois. Le problème fondamental, c'est que personne ne maîtrise cette matière. C'est vraiment le problème. Personne ne comprend cette matière. C'est pas moi qui le dis, c'est le juge Juliette, c'est toujours d'actualité. Je veux dire, tu passes d'un vademécum à un autre, que ce soit celui du juge Rosenweg ou celui du juge Juliette, tu t'aperçois qu'entre les deux, il y a des discordances.
Voilà, il n'y a pas de normalisation et personne, en fait, ne connaît les véritables procédures juridiques qui sont autorisées ou qui sont en vigueur, et chacun fait ce qu'il veut, en fait. Mais l'avocat qui vient défendre l'enfant, est-ce que vraiment il va donner son avis à lui ou il va donner l'avis de l'enfant? Est-ce que lui, il est formé si personne ne sait comment ça marche et chacun fait ce qu'il veut?
Déjà, pour commencer, l'avocat n'est pas là pour défendre l'enfant en assistance éducative parce qu'il n'est pas attaqué, l'enfant. Le parent non plus n'est pas attaqué, enfin même si en audience on voit le contraire.
C'est une question de
point de vue. Il est assisté. En fait, non, c'est prévu dans les textes. C'est dans le Code de procédure civile, article 1181 ou 2 de mémoire. 2, je crois, c'est le 2. On peut être assisté d'un avocat. On n'est pas en défense. Si tu veux, quand tu vas être pour divorcer, effectivement, que l'avocat va défendre tes intérêts face justement à la partie adverse qui, elle, veut essayer de tout piquer et inversement. Donc, là, si tu veux, il y a une véritable défense des intérêts. Dans le cas d'une procédure d'assistance éducative, on n'est pas du tout dans la défense de quoi que ce soit. On est dans une procédure dans laquelle l'avocat ne fait que de faire des observations. C'est pour ça qu'il parle à la fin. En fait, il faut comprendre que l'assistance éducative, le juge des enfants convoque en réalité une réunion de famille. C'est pour ça qu'il est en chambre du conseil, il convoque une réunion de famille qu'il préside. C'est ça qu'il devrait faire en réalité. D'accord? Bon, ça, ils ne le font pas. Et donc, comme on est dans une réunion de famille, on n'est pas là à défendre des intérêts, puisque le seul intérêt qu'il y a à défendre en assistance éducative, c'est celui de l'enfant. C'est le seul. D'accord? Et donc, déjà, il faut remettre les mots à leur place. C'est une assistance, ce n'est pas une défense. Donc, les avocats, ils feraient peut-être bien d'arrêter de se taper sur la tête, de mettre les gants de boxe quand ils rentrent dans la chambre du conseil pour discuter avec le juge des enfants. Ils ne sont pas là pour
se battre. Oui. S'occuper d'un enfant, ce n'est pas la guerre. Il faut expliquer ça aux avocats. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un nouveau métier. Ce n'est pas forcément un métier d'avocat. C'est autre chose, s'occuper d'un enfant.
C'est tout à fait ça. Et j'ai même te dire mieux, moi je trouve absolument dommage justement que l'avocat est obligatoire, enfin serait par cette loi obligatoire à compter de l'instance d'assistance éducative, c'est-à-dire dès le moment où l'instance juridique est ouverte. Moi je pense qu'à ce moment-là, dans un monde qui fonctionnerait, hein, il faudrait que l'avocat soit présent dès le moment où il y a une information préoccupante.
Oui, parce que c'est ce que tu étais en train de dire. Moi, je l'ai fait d'ailleurs, hein, quand j'ai reçu une IP, j'ai pas mon affaire un petit peu, quand j'ai reçu une IP il y a plusieurs années, je suis allé voir un avocat et la période avant le JDE m'a coûté 4500 balles quand même. Hein, et j'étais que moi, je n'avais pas emmené un avocat pour ma fille en plus. Hein.
Moi, je pense qu'il faudrait justement que l'enfant soit accompagné dans la procédure d'évaluation, d'examen. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées, on va dire, pendant cette évaluation, qui sortent totalement du cadre légal. Absolument. Et je peux te dire que dans certaines évaluations, j'ai remarqué que les droits de l'enfant sont totalement bafoués. Tu vois ? Oui. Je veux dire, par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Je veux dire, les sociaux doivent rencontrer l'enfant. Jusque-là, j'ai pas de problème. Mais ils n'ont pas à rencontrer l'enfant en aparté, c'est-à-dire en secret. C'est-à-dire, je te prends l'enfant, je vais m'isoler dans une pièce avec lui, on ne sait pas ce qui s'y passe. On ne sait pas ce qui s'y dit, et ensuite l'enfant est ramené aux parents. Je veux dire, même un enfant qui est envoyé devant un officier de police judiciaire n'est pas entendu en aparté.
Il est un enfant de tout. Moi, j'ai des cas où les sociaux entendent l'enfant avec la mère, entendent la mère seule, n'entendent pas le père tout seul, ou alors n'entendent pas le père avec l'enfant, ou n'entendent pas la mère avec l'enfant. Normalement, tu vas être censé écouter l'enfant avec la mère, puis l'enfant avec le père. Tu en as trois. Les psychologues font comme ça, les psychiatres aussi, etc. C'est une étape qui est dévoyée et qui n'est quasiment jamais respectée.
Oui, parce qu'à la base, la procédure, elle est pénale. C'est après qu'elle a été dévoyée au civil, mais au départ, la procédure, elle est pénale.
D'accord.
Tu vois ? Et en fait, pourquoi les civils aujourd'hui ? C'est pour éviter, c'est le principe d'atténuation des peines qui avait été posé en 1912 lorsqu'ils ont créé le tribunal pour enfants et adolescents. Il n'y avait pas encore de juge des enfants spécialisé qui lui n'est arrivé qu'en 45. La procédure à la base est pénale et en fait, pour pouvoir appliquer le principe de diminution des peines et donc sans avoir besoin de passer par le pénal pour ouvrir une instance une instance d'assistance éducative au civil, on a permis l'accès direct au juge des enfants en civil. Le problème, c'est que tout est dévoyé aujourd'hui. Tout est dévoyé. Donc, pour moi, l'avocat devrait être... Il faudrait déjà que les avocats soient formés, soient compétents sur cette matière.
On y revient.
Voilà, on y revient. Et je dirais même que la loi ne va pas assez loin puisqu'elle devrait... l'enfant devrait être accompagné dès le moment où il y a une information préoccupante.
Après, est-ce que vraiment il faut mettre un accompagnateur à chaque citoyen, à chaque étape de sa vie ? C'est la socialisation ultime du système, hein, ça.
Et là, le problème, c'est de l'infantilisation carrément, parce qu'en fait, l'État s'immisce de plus en plus dans la vie privée des gens et oppose de plus en plus un contrôle coercitif ou un contrôle social. Donc, effectivement, moi, je pense qu'aujourd'hui, cette matière ne doit pas... Enfin, je pense que cette institution qui est l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui ne peut pas être réformée. Elle doit être reconstruite de zéro. Et je vais même te dire mieux, je pense que les réformes successives du droit de la famille qui ont été initiées en 70 doivent être totalement terminées, elles doivent être abouties, elles doivent se terminer, et on ne doit plus laisser au juge des enfants autre chose que des situations d'enfants en infraction avec la loi. Qu'ils décident par diminution des peines de faire l'assistance éducative s'il veut, mais on ne devrait plus avoir de juge des enfants qui traite autre chose.
David Vincent, on te trouve comment, on te joint comment ?
On me joint par email, droit@hotmail.com. Alors certains m'ont dit, comment ça, t'es de l'ASE ? Non, c'est parce qu'en fait, je cherchais une adresse email. Je me suis dit, on se pose la question sur les droits, ça concerne l'ASE, droit.ASE. Voilà.
Ok. Je te remercie beaucoup et je te dis à très très bientôt avec un sujet notamment, je crois, qui est la séparation des périmètres entre le JAF et le JDE. Merci David, à bientôt. Au revoir.
Au revoir, merci.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.